Bonjour, nous sommes Baudouin,
Thomas
et Mathilde
de la classe de 4e latiniste et nous allons vous présenter le Forum romain sous la forme d'une petite scénette. Bonne écoute. Ah oui, Mathilde douce fondadous.
Ah oui, Baudouinus Peculus, comment vas-tu?
Bien, et toi?
Bien, je cherchais le temple de Vesta.
Il est vers l'est, à côté du temple de César. Suis-moi, je vais te faire une petite visite de la ville.
Où sommes-nous?
Nous sommes devant le temple de la Concorde.
Et on y fait quoi?
On y organise des réunions du Sénat.
Ah, d'accord. Très intéressant.
Continuons la visite.
Ave, Baudouinus.
Tiens, mais c'est Tomatus Crepuaus.
Qui est la personne avec toi?
Je m'appelle Mathildus Fondodus.
Pourquoi es-tu là?
Je suis ici pour faire visiter le forum à une touriste, c'est la basilique.
À quoi sert-elle?
Elle sert de tribunal, de bourse de commerce et de lieu de promenade. Elle était avant tout un local judiciaire.
Nous allons au temple de Vesta. Voulez-vous venir? Baudouinus, tu n'aurais pas vu trop douce?
Il est confiné chez lui car il a le Covid-3.
Oh, le pauvre! Allons-y.
Allons-y.
Où allons-nous maintenant?
Nous nous rendons au temple de Saturne.
Et on y fait quoi au temple de Saturne?
On y trouve le trésor public de l'État, ainsi que les lois gravées dans le bronze, les décrets du Sénat et d'autres registres importants.
Tu as oublié que le temple de Saturne abrite également, en temps de paix, les flammes et les insignes des différentes légions de l'Empire.
Nous avons fait le tour de la ville. Voilà le temple de Vesta.
Il est très beau! Qu'est-ce qu'on y fait?
On peut y trouver le feu sacré de la ville, le palladium, ainsi que d'autres objets sacrés.
Merci bien. Vous habitez une très belle ville. Je ne peux malheureusement pas continuer la visite. Je dois m'arrêter là. Merci encore et au plaisir de vous revoir.
De rien, ce fut un plaisir de vous rencontrer.
Au plaisir. La scénette portant sur le Forum romain est terminée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
Nous tenons aussi à remercier Laura, Thomas, Rémi, Louane et Hugo qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui.
Bonjour à tous, nous sommes 4 élèves de 4e E. Tout d'abord, nous tenons à remercier notre camarade de classe Wissem qui n'a malheureusement pas pu participer à ce projet. Aujourd'hui, nous sommes en présence de spécialistes de la Rome antique. Ils répondront à toutes nos questions sur les termes romains dans l'Antiquité.
Bonjour.
Pour commencer, où et quand apparaissent les premiers termes?
Les termes apparaissent en Italie dès le 4e siècle avant Jésus-Christ.
Ce sont des établissements qui abritaient les bains publics de la Rome antique. Les termes romains servaient à se laver, à détendre ses muscles après l'exercice physique, mais avaient aussi un rôle social très important.
Vous parlez d'un rôle social important. Pouvez-vous développer?
Les termes étaient un lieu où les gens pouvaient venir discuter entre amis ou rencontrer de nouvelles personnes.
Est-ce que tout le monde pouvait facilement accéder aux termes?
Les termes étaient peu chers, voire gratuits, ce qui permettait à un grand nombre de personnes d'y aller. Cependant, les classes sociales ne se mélangeaient pas.
Dans les thermes, on trouvait des vestiaires sous le nom d'apoditarium, un frigidarium qui était un bain froid, un tepidarium qui était un bain tiède et un caldarium qui était un bain chaud.
Y avait-il un ordre de passage entre chaque bain?
Les Romains suivaient un itinéraire. D'abord, ils déposaient leurs affaires dans les vestiaires, puis allaient dans le frigidarium, le bain froid. Ensuite, ils allaient dans le tepidarium, un bain tiède, et enfin, dans le caldarium, un bain chaud.
Les citoyens riches pouvaient être accompagnés d'esclaves, le balnéator aidait son maître pendant son bain, l'unctor le massait et l'alipus l'épilait.
Y avait-il une décoration spécifique dans les thermes?
En effet, certains thermes étaient décorés avec des colonnes et de la mosaïque.
À quelle heure ouvraient les thermes?
Les thermes ouvraient à midi. Pour éviter la mixité, ils pratiquaient des horaires alternés.
Quand sont apparus les bains tièdes et les bains chauds?
Au début, les premiers thermes se composaient seulement de bains froids alimentés avec l'eau d'un puits. Les premiers bains tièdes et chauds apparaissent durant la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec la diffusion de l'hypocauste dans le monde romain.
Qu'est-ce que l'hypocauste?
L'hypocauste était un système de chauffage. Ce système faisait circuler la chaleur produite par un foyer dans des pilettes de briques situées sous les thermes. On utilisait donc des tuyaux en terre cuite appelés tubulures qui dégageaient leur chaleur à travers les murs. Les salles tièdes étaient donc plus éloignées de la source de chaleur que les salles chaudes.
Merci aux spécialistes de nous avoir partagé leurs connaissances sur les thermes. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt. Maintenant, nous allons écouter l'enregistrement des élèves de 4e F, Gabriel, Anna, Emma et Sarah, qui vont nous parler du Vésuve.
Bonjour, on m'a dit que vous avez vécu le déchaînement de la montagne du Vésuve.
Oui, c'était au mois d'octobre dernier.
Vous étiez à Pompéi?
Non. Vous savez, d'autres villes ont aussi été ensevelies, comme Herculanum, Opuntis et Stabis. Je vivais à Opuntis.
Était-ce si violent qu'on le dit ?
Eh bien, il y a eu 15 000 morts, et certaines villes sont encore ensevelies. Donc oui, bien sûr.
Je vois. Pouvez-vous décrire ce que vous avez ressenti ?
Bien sûr. Avant l'éruption, il y a eu 2 jours pendant lesquels la terre a tremblé. C'est à ce moment que je suis partie à Nuceria avec ma famille. La journée du drame, même de là où j'étais, je voyais le ciel qui commençait à s'assombrir. On apercevait déjà des pierres et des cendres qui s'échappaient de la montagne. Et au début de l'après-midi, c'était le chaos. Une sorte de grand nuage noir s'élevait du ciel. Les villes étaient piégées au cœur d'une immense montagne de cendres. Cela dura presque une journée entière. Le nuage s'étendait jusqu'à Mycène. Il n'y a eu aucun survivant. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Ils sont morts brûlés ou asphyxiés.
Est-ce qu'il y a eu des morts de gens importants ?
Oui, évidemment. J'ai perdu des amis et de la famille, ce qui était important pour moi. Mais je vois de quoi vous voulez parler. Vous parlez de personnes célèbres.
Oui, excusez-moi.
Ce n'est pas grave. C'est juste que pour moi, 15 000 personnes qui meurent en même temps, c'est horrible, même si elles ne sont pas célèbres. Mais il y a tout de même eu la mort de Pline l'Ancien qui était écrivain. C'est son neveu Pline le Jeune qui le dit dans un ouvrage. Après, le dirigeant de Pompéi était aussi influent et il y avait beaucoup de personnes riches.
D'accord. Avez-vous déjà vécu quelque chose de la sorte ?
Non, heureusement. Personne n'avait jamais vécu ça. Mais je me souviens d'un tremblement de terre il y a environ 15 ans, qui avait déjà détruit une partie de Pompéi.
Et pensez-vous que les dieux y sont pour quelque chose ?
Oui, les montagnes ne doivent pas faire ça normalement. Je ne sais pas ce qui a poussé les dieux à prendre ces milliers de vies.
Merci de votre témoignage. Nous allons maintenant accueillir un scientifique, Lucius Anicius Rivilla, qui va nous apporter plus de précisions sur cet événement tragique.
Bonjour monsieur. Tout d'abord, je vais vous faire part de mon hypothèse. Il est fort probable que ce ne soit pas la colère des dieux qui se soit abattue sur Pompéi, mais plutôt un phénomène naturel. J'ai une preuve. Il y a environ 150 ans, la montagne Vulcinie a déversé de grandes coulées de pierres rouges et brûlantes. Cela ressemble un peu à ce qu'a fait le Vésuve. Enfin, je veux dire que cette montagne aussi a fait quelque chose d'inhabituel. Et je pense que ce n'est pas la première fois que cela se produisait. Je pense donc qu'il y a 2 types de montagnes.
Des montagnes bienfaitrices et des montagnes destructrices, en quelque sorte.
Oui, peut-être.
Êtes-vous le seul à penser cela ?
Non, mais nous sommes très peu à partager cette idée.
Effectivement, ce que vous avancez me semble très étrange. Eh bien, je crois que nous allons en rester là pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous comprendrons ce qui est arrivé à Pompéi et à ses villes voisines.
Oui, un jour, nous comprendrons, car la science ne fera que progresser. Seuls les dieux savent quand la vérité sera révélée. Merci de m'avoir écouté.
C'était avec plaisir, monsieur Lucius.
I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down? Yeah.
auditeurs, nous nous retrouvons maintenant pour une visite chez nos amis les gladiateurs et leur poser quelques questions. Bonjour.
Bonjour.
Présentez-vous en quelques mots.
Je m'appelle Robinus et je suis un gladiateur, et plus précisément un myrmillon. Mon type de gladiateur est dit lourd, à cause de mes armures et de mon scutum, un grand bouclier rectangulaire. Mon laniste est maître Houdinus. Je me bats souvent contre des thraces.
Mais d'où vient le mot gladiateur ?
De l'Antiquité romaine, les gladiateurs sont de véritables professionnels qui apprennent à manier l'épée dans le seul but de rester en vie. Car en latin, gladiator est formé à partir du mot gladius, qui signifie glaive. Le gladiateur est donc celui qui porte le glaive.
Merci beaucoup. Maintenant, allons voir Nicolus, le célèbre sécutor.
Bonjour, cher gladiateur.
Bonjour.
Qui êtes-vous ? Présentez-vous.
Je suis un des sécutors du Colisée. Mon nom est Nicolus.
Que faisiez-vous avant d'être gladiateur ?
Avant d'être un gladiateur, j'étais un homme pauvre, mais volontaire pour se battre. Je volais et me battais pour survivre.
Je vois. Qui est votre laniste ?
Mon laniste est maître Houdinus.
Quelles sont vos conditions de vie auprès de votre propriétaire ?
En tant que gladiateur, mes conditions de vie sont rudes, mais pas si mauvaises. Mon propriétaire doit bien me nourrir ainsi que me soigner, me masser et m'entraîner. Cependant, il a tous les droits sur moi, y compris de me tuer si je fais une grave erreur. Mais nous, gladiateurs, sommes considérés comme des héros, voire même comme des merveilles du monde pour nos spectateurs et spectatrices. C'est ceci qui nous encourage à nous battre sans relâche.
Quel est votre équipement en tant que sécutor ?
Je possède plus ou moins le même équipement que le myrmillon. En fait, je suis une évolution de celui-ci. C'est-à-dire que je me bats avec un gladius, une sorte de glaive court, ainsi qu'avec un scutum, un grand bouclier rectangulaire. Mes protections sont une manica, qui protège mon bras droit, ainsi qu'une ocrea protégeant ma jambe gauche.
Merci pour votre temps. Rejoignons maintenant notre rétière favori.
Bonjour, comment vous appelez-vous ?
Bonjour, je me nomme Lorenzus.
Présentez-vous, mon cher.
Je suis un rétière combattant pour maître Houdinus.
Je vois. Êtes-vous le seul gladiateur que possède votre laniste ?
Non, nous sommes à peu près une vingtaine, et nous sommes la plupart soit des esclaves, soit des prisonniers de guerre. Mais certains sont des hommes libres, qui ont choisi de se porter volontaires pour devenir gladiateurs. Ils sont pauvres pour la plupart. Moi, personnellement, je me suis porté volontaire car j'avais perdu mon travail et j'avais du mal à vivre. Il fallait que je trouve un moyen de vivre convenablement.
Et quel équipement possédez-vous ?
Alors je suis équipé d'un trident, donc c'est un trident pour tenir mes adversaires à distance, ainsi qu'un pugio, un petit poignard. Un rete, c'est un filet qui sert à déstabiliser mes adversaires. Et comme protection, j'ai un galerus, donc c'est une épaulière, et une manica, un brassard que je ne porte qu'à la main gauche.
Merci Lorenzus de nous avoir accordé un peu de votre temps. Au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Et pour finir, allons à la rencontre du thrace Gaspardus.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, je suis le thrace Gaspardus. Le thrace est un type de gladiateur. Il est armé d'une sica qui est inspirée d'une arme de celle que portaient les ennemis de Rome, les habitants de Dacie. Je suis également armé d'un parma qui est un petit bouclier rond.
D'accord, pourriez-vous nous parler de vos combats ?
Mes combats, comme ceux de mes confrères, se passent dans des arènes comme le Colisée, entourées par le public et par les arbitres, car contrairement aux idées reçues, les combats ne sont pas barbares. Il y a des arbitres et tout est organisé. Si malheureusement un gladiateur est tué, car c'était très rare, l'organisateur du combat devait payer une amende au laniste. Nos combats duraient souvent moins de 3 minutes, car notre attirail est très lourd et le cardio monte très vite.
Merci à vous, Gaspardus. Et c'est donc la fin de notre visite des gladiateurs. Nous leur souhaitons bon courage pour la suite de leur combat.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Roma.fmr 97.4. Nous sommes Thomas Martin, Alix Bertrand, Alec Collinet et Victoria Cresta. Nous allons vous présenter le Circus Maximus et les courses de chars. Je suis donc Victoria, journaliste, reporter sportive. Aujourd'hui, je suis à Rome en l'an 50 avant Jésus-Christ, et je ne sais quel jour, peut-être samedi, dans une vaste plaine entre le mont Palatin et Avertin. Aventin, excusez-moi. Je vois un imposant édifice en pierre en forme d'ellipse. J'entends beaucoup de bruit, ce doit être le Colisée, je suppose. Allons demander à ce monsieur qui se trouve à l'entrée. Bonjour, je suis un peu perdue, pouvez-vous me dire où nous trouvons-nous ?
Où nous nous trouvons ? Voyons, vous ne le savez point, vous n'êtes sûrement pas du coin. Nous sommes au grand cirque, le Circus Maximus, le plus grand de Rome.
Ah, ce n'est pas le Colisée ?
Non, le Colisée est situé derrière le mont Palatin, mais il n'est pas loin. Il doit être à 2-3 rues d'ici. C'est là-bas que se déroulent les combats de gladiateurs. Au Circus Maximus, c'est les courses de chars.
D'accord, donc nous sommes au grand cirque avec les courses de chars. Savez-vous où puis-je trouver le maître des lieux ?
Vous parlez du magistrat ? Oui, je sais où vous le trouvez. Passez par la porte triomphale qui est juste devant vous, puis essayez de repérer la loge impériale, qui est réservée à l'empereur et au magistrat parfois. C'est le seul bâtiment situé dans les gradins. Et c'est là-bas que sera donné le départ.
Merci mon brave, je vais de ce pas aller à la loge impériale. Le départ des courses n'a pas été encore donné. Cela me laissera le temps d'interviewer le magistrat. En tout cas, les gradous sont remplis. Il doit y avoir environ 200 000 spectateurs. Et les gens riches sont plutôt en bas et les plus pauvres en haut. Quel boucan, mais quelle excitation ! Ouais ! Les courses de chars ont l'air vraiment d'avoir du succès auprès du public. Ah, voici le magistrat. Cela se voit à ses habits et à son allure. Bonjour, je suis une passionnée du Circus Maximus. Pourrais-je avoir des renseignements sur sa construction ?
Bonjour, moi aussi j'aime le grand cirque. Il était construit en bois en l'an 153 après la fondation de Rome, par les premiers habitants de celle-ci. D'ailleurs, plusieurs de mes ancêtres en faisaient partie. C'est en l'honneur de Tarquin l'Ancien, un des rois légendaires de Rome, qu'il a été édifié, car nous, Romains, adorons rendre hommage. En ce moment, notre empereur Jules César vient de terminer sa rénovation. Il est maintenant en pierre et a plus l'aspect de cirque romain. Il mesure 200 mètres de large et 600 mètres de longueur, et peut accueillir au moins 150 000 personnes. À Rome, il en existe une douzaine.
Quelle histoire ! M'inspire-t-il certains poètes, écrivains ou artistes avant de témoigner son existence ?
Oui, beaucoup de poètes comme Ovide par exemple évoquent dans certains de leurs écrits les courses de chars au cirque. Des poteries, statuettes ou mosaïques sont créées par divers artistes qui, comme nous, sont passionnés des courses.
Je vois que nous ne sommes pas les seuls à aimer le Circus Maximus. D'ailleurs, les 150 000 personnes n'y sont pas venues pour rien. Comme c'est vous qui mettez en place ces spectacles et donnez le départ, serait-il possible de m'expliquer brièvement comment se déroulent les courses ?
La course se passera ainsi. Dans quelques instants, je donnerai le départ, en jetant la mappa, une serviette blanche. Les chars alignés sur la ligne de départ partiront sur l'aréna, autrement dit, la piste circulaire de forme allongée. Celle-ci est coupée en deux dans son sens longitudinal par la spina, un petit muret sur lequel on peut trouver des plantes ou des chapelles. Enfin, les chars franchissent la ligne d'arrivée, qui se trouve au niveau de la loge impériale.
Combien de tours les chars doivent-ils effectuer ?
Les chars conduits par les origes devront effectuer 7 tours de l'aréna. Ceux-ci sont comptés en abaissant les œufs de métal situés aux extrémités de la spina, où sont les métae, les bornes aux formes de cônes. C'est à cet endroit que les origes feront un virage serré, tout en faisant attention de ne pas accrocher un autre char ou la méta.
Où se trouvent les origes et d'où partaient-ils ?
Les origes doivent normalement être en train de se préparer dans les carqueres, qui sont les loges des chevaux. Elles sont au nombre de 12. Je connais d'ailleurs un célèbre origine nommé Flavius Corpus. Il a gagné beaucoup de courses et a une belle carrière devant lui.
Merci. Cet origine sera un excellent témoin de cette émission. Alors, les carqueres se trouvent à l'opposé de la porte triomphale. L'origine Flavius Corpus doit être dans la première stalle. Ah, ça y est, je viens de l'apercevoir. Bonjour, êtes-vous Blin Flavius Corpus ?
Bonjour, je m'appelle Blin Flavius. Êtes-vous un de mes fans ?
Oui, on peut dire que je suis une de vos fans, en quelque sorte. Je voudrais avoir quelques informations sur les courses de chars. Depuis quand sont-elles pratiquées ? Sont-elles le seul symbole des jeux du cirque ?
Eh bien non. Les courses ne sont pas les seules à être pratiquées dans les cirques. Il existe aussi les nomachies, les batailles navales grandeur nature, mais aussi les venationes, les chasses, ainsi que les pugilates, les combats de boxe et parfois les courses à pied. Elles sont pratiquées depuis plusieurs siècles.
Pourquoi les spectateurs sont-ils si nombreux à assister à ces courses ?
Les spectateurs sont si nombreux car ils sont intéressés par ces courses puisque les participants ainsi que moi-même courons le risque d'avoir un accident. Donc, elles procurent une dimension spectaculaire.
Merci pour ces précisions. J'observe que tous les chars présents ici sont tirés par... Attendez, 1, 2, 3, 4... Oui, par 4 chevaux. Existe-t-il des chars pouvant être tirés par 2 ou 3 chevaux ?
Les chars que nous possédons sont des quadriges. Ce sont les plus communs pour les courses de chars. Néanmoins, il existe deux autres types de chars. dont les brigues et les trigues. Vous l'aurez deviné, les bigues sont tirées par deux chevaux et les trigues par trois. Les chevaux que vous voyez sont très entraînés et viennent des plus grandes écuries de l'Empire.
Je vois, décidément, les courses de chars, ce n'est pas de la rigolade. Savez-vous combien d'argent pouvez-vous gagner en fin de carrière ?
En fin de carrière, à condition que je remporte beaucoup de courses, je pourrais gagner environ 35 millions de sesterces. Et encore, certains remportent pour plus que cette somme et peuvent devenir aussi riches qu'un haut fonctionnaire et gagner leur vie.
Eh bien, je suis impressionnée par cette somme d'argent considérable. Connaissez-vous des célébrités ayant déjà participé à ces courses ?
Non, pas pour l'instant. Mais je pense savoir tout de même que certains empereurs en seront séduits. Moi, j'étais esclave quand on m'a proposé de devenir riche. J'ai jamais hésité. Ce métier a souvent été représenté par des personnes de basse condition, mais rudement entraînées.
Merci beaucoup pour votre intervention à propos des courses. La vôtre va commencer dans peu de temps, non ?
C'est exact. Il faut que je finisse de me positionner sur la ligne de départ et d'attendre le signal du magistrat. Je vous conseille de vous placer dans l'écran, les grades housses, afin de voir la course. Peut-être vous rencontrerez plusieurs de mes supporters.
Ce sera certain. Bonne chance pour la course. Bon, je vais éviter de monter trop haut dans les grades housses, car je verrai moins et de plus, les nobles sont mieux abordables. Ceux-ci portent de belles toges et beaucoup de bijoux. À l'époque, la bonne réputation et la richesse devaient sûrement être importantes. Il fallait donc beaucoup montrer ses valeurs. Bon, assez parlé. Il faut que je retrouve, que je trouve une personne digne d'être interviewée. Eh, mais voilà le spectateur de tout à l'heure. Rebonjour. Désolée d'encore vous interroger, mais pourriez-vous m'accorder un instant ? Juste m'expliquer quelles sont les différentes activités que peut faire le public, mis à part de regarder des chars tourner autour de la spina.
Pour pouvoir encourager nos factiones, les équipes, ou nos origes, on mise quelques sesterces sur une factio, puis le reste est jeu du hasard. Si l'équipe sur laquelle on a parié gagne, elle remporte l'argent parié. Au contraire, si elle perd, l'argent qu'on a dépensé revient parfois à l'équipe gagnante.
Cela explique le salaire exorbitant des origes ayant beaucoup remporté de victoires. Combien de factiones participent à la course ?
Il y a quatre factios, la Russata, la rouge, la Veneta, la bleue, l'Albata, la blanche et la Prasina, la verte. On peut crier la couleur de son équipe pour la supporter, mais personnellement, je ne le fais jamais.
Ce sera tout. Je ne voudrais pas plus vous déranger. Le cirque bat son plein. Je crois bien que ces jeux auront permis aux empereurs d'éviter les guerres civiles, ce qui aurait pu menacer leur empire intérieurement. Une seule question. Quand est-ce que les courses de chars disparaîtront ?